France Inter.
Chers amis, bonjour.
Bonjour.
Amfreville-Lamivoie, c'est le nom d'une commune, c'est là que nous sommes cette semaine. Un peu plus de 3300 habitants, situés sur les bords de Seine, un département de Seine-Maritime, juste au sud de Rouen et dans la métropole Rouen-Normandie. Alors ce nom est étonnant, Amfreville-Lamivoie. Amfreville, ça vient du terme latin villa, qui signifie domaine agricole. Donc c'était sans doute la propriété d'un certain Hansfred ou Osfred, un viking. Avec l'arrivée des vikings dès le 8e siècle et leur installation sur ce territoire, on a mis en place une manière de dénommer les lieux qui combinait le nom du propriétaire et le mot villa devenu ville. Il y en a beaucoup en Normandie, vous le savez, des villes. Et pour les Amfreville, il y en a même 7 au total dans la région. Quant à la deuxième partie du nom, Amfreville-Lamivoie, il est probable, mais pas certain, que ça soit lié à la très grande route menant à Paris, le long de laquelle la commune s'est développée. En effet, un relais de poste, pour changer les chevaux donc, se trouvait dans une localité un peu plus loin, et donc Amfreville, peut-être, était situé à peu près à mi-distance entre ce relais et Rouen, donc à mi-voie. La commune se trouve sur les deux rives de la Seine. En réalité, seule la rive droite est habitée. Et ce qui marque ici, c'est que sur les hauteurs de la commune, d'abord ça monte très très vite, et sur les hauteurs, la nature prend le dessus très nettement. C'est très boisé, c'est vert, c'est frais. Quand il fait chaud en bas, eh bien on perd quelques degrés très rapidement. Ça monte rapidement et on est très vite en pleine campagne. À Amfreville, Lamivoie, pour le jeu, le premier de la semaine, Aline Calentier et Laurent Grenier. Bonjour Aline.
Bonjour.
Vous habitez Rouen ?
J'habite Rouen, oui.
Vous avez un quartier préféré à Rouen ?
En fait, j'aime tout Rouen, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'aime bien le centre-ville, j'aime bien le Jardin des Plantes, j'aime les quais de Seine qui sont magnifiques, tout ce qu'on peut y faire.
Et le cœur de ville.
Le cœur de ville, oui.
Le gros horloge,
aussi.
Etc. Tous les bâtiments historiques. Quel est votre métier, Aline ?
Je suis sage-femme.
Quelles sont vos occupations personnelles principalement, Aline ?
La musique et mes chats.
Ah, mais les chats. Ils aiment la musique d'ailleurs eux-mêmes.
Aussi.
Ouais. Est-ce qu'ils réagissent à la
oui.
musique ? Et quel
oui.
est leur style de musique préféré ?
Ah, ils aiment tout.
Tout
ils sont obligés de tout aimer.
Ah oui, c'est ça. Parfois des musiques assez amplifiées, ça ne les dérange pas ?
Non, absolument pas.
Ouais. C'est une question d'habitude.
Voilà.
Aline avec Laurent Grenier. Bonjour Laurent, bienvenue aussi.
Bonjour Nicolas, merci.
Vous habitez Sotteville-lès-Rouen.
Oui.
C'est tout près.
Oui, c'est juste en face. Voilà,
en face.
Sur l'autre rive.
Vous êtes rive gauche.
Exactement.
Ici, on est principalement rive droite à propos d'Amfreville-Lamivoie. Votre métier, Laurent ?
Je suis contrôleur de sécurité. En fait, je travaille à la prévention des risques professionnels pour un organisme de sécurité sociale qui s'appelle la CARSAT, qui ne fait pas que voilà payer les retraites. Il y a aussi un aspect santé au travail. C'est ça, dans l'acronyme CARSAT, c'est santé au travail.
La prévention, donc.
C'est ça.
Vous allez sur le terrain voir...
Ah oui, complètement. J'ai un secteur dont je m'occupe et qui est basé dans l'Eure, dans le département de l'Eure, autour d'Evreux et de Louviers et du Neubourg.
Vous y allez en courant parfois, Laurent,
non,
parce que vous êtes un grand coureur à pied. Hein.
Oui, je cours depuis 25 ans maintenant.
Vous avez fait des semi-marathons, des marathons, des choses
marathon,
comme ça
oui.
Marathon, oui.
Ouais, j'en ai 22.
22 marathons à votre actif.
Oh ouais.
Vous les avez tous terminés ?
Oui.
Et alors, tout terrain
Alors, dernièrement, j'ai fait la distance un peu plus qu'un marathon. J'ai fait le Cotrail de Paris au mois de mars,
ouais. Ce
qui faisait 44 km, donc 2-3 km de plus, avec un peu plus de dénivelé. Et ça a été très difficile. Là, pour le coup, les parcours accidentés me sont moins favorables. J'ai plus souffert.
Donc la diagonale des fous à la Réunion,
non,
c'est pas
pour
moi.
Non. Ultra trail comme ça, c'est trop.
Bon, de la folie, mais juste ce qu'il faut pour
Exactement.
Vous. Aline Calentier, Laurent Grenier réunis pour faire un beau duo au jeu des 1000 euros. Première question bleue. D'Antonin Dufraisse à Passy-sur-Eure, dans le département voisin de l'Eure. Comment appelle-t-on une planche qui glisse sur la neige, sur laquelle, c'est important, les deux pieds sont côte à côte. Ils sont attachés côte à côte et parallèlement à la planche. Donc, quel est le nom de ce type de planche ?
Monoski ?
Oui, exact. C'est un monoski. Avec tous les éléments dans la question, c'était bien le monoski qu'il fallait trouver. Différent du snowboard, où les pieds ne sont pas côte à côte. Et là, les pieds sont côte à côte. C'est le monoski. Autre question bleue, envoyée par Jacques Damoiseau qui habite le Cantal, la commune de Seine-Zergue. Qu'est-ce qu'un mot qu'on appelle épicène, qu'on qualifie d'épicène ? Épicène, qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, c'est un prénom épicène, c'est un prénom qui convient à un garçon comme une fille, style Camille.
Claude. Dominique.
Exemple de prénom épicène, ça se dit d'un nom qui désigne indifféremment le mâle et la femelle d'une espèce ou d'un nom, ou d'un pronom, ou d'un adjectif qui ne varie pas selon le genre. Vous avez cité par exemple ces prénoms qui étaient des prénoms épicènes. Voilà ce que ça veut dire, épicène. Bravo! Qu'est-ce qu'un lucaniste? Autre question de vocabulaire, c'est ce que vous demande Gwendaël Porret de Saint-Maur des Fossés dans le Val-de-Marne. Et c'est la troisième question bleue. Qu'est-ce qu'un lucaniste?
C'est un pratiquant de cerf-volant.
C'est un amateur de cerf-volant lucaniste. Ça vient bien du latin, du lucanus, lucan, le nom de l'insecte coléoptère, et donc on appelle les amateurs de cerf-volant des lucanistes. Ils pratiquent ce sport parce que c'est un sport qui est le cerf-volant. On en fait dans la région, je pense.
À Dieppe. Il y a un festival international qui est magnifique.
C'est ça, c'est l'un des spots de cerf-volant où se retrouvent les lucanistes sur la plage de Dieppe. C'est vraiment très près, Dieppe d'ailleurs. Hein. On va assez facilement à Dieppe quand on est
en
trois quarts d'heure. Oui. C'est votre plage préférée, l'un et l'autre? Non, Aline?
Étretat.
Et vous, Laurent?
Pas la plage, la ville est sympa, mais la plage, non, Saint-Thomas-sur-Mer, plus de sable.
Ouais. Ah, c'est vrai qu'à Dieppe, c'est du galet, mais c'est une ville très dynamique.
Oui,
Dieppe, oui, très dynamique.
À taille humaine.
Exact. Question blanche maintenant, une question d'Élise Gadéa de Toulouse. Le lac Titicaca est à cheval sur deux pays, lesquels?
Le Pérou et la Bolivie?
Le Pérou et la Bolivie se partagent le lac Titicaca. La frontière passe même au milieu du lac, dans la cordillère des Andes. Pérou, Bolivie. Question blanche également, de la part de Jean-Claude Bernard de Talence, c'est juste à côté de Dijon en Côte d'Or, et c'est une question qui nous a été envoyée sur franceinter.fr. En mythologie grecque, quel roi fut condamné par Zeus à remonter éternellement un rocher en haut d'une colline?
Sisyphe.
Sisyphe, bonne réponse là aussi, assez rapidement. Le mythe de Sisyphe. Roi d'Épire, dans la mythologie grecque, qui, puni par les dieux, fut condamné à pousser un rocher en haut d'une colline éternellement, celui-ci redescendant à chaque fois qu'il atteignait le sommet. Sisyphe. La question rouge, déjà posée à Aline Calentier et à Laurent Grenier. Tout va bien, hein, jusqu'à présent. On peut dire que vous êtes à peu près bon dans tous les domaines. Vous avez des points forts de façon générale? Il y a des choses qui... Ou alors, au contraire, des sujets qui ne vous inspirent pas, a priori. Laurent?
Lacune en histoire, quand même.
Ouais, on est tous les deux lacunaires en histoire.
Un peu, oui, c'était un sujet tellement large.
Oui.
On ne peut pas, évidemment, tout connaître toutes les époques, mais on va voir s'il y a une question histoire. Non, ce n'est pas une question histoire, c'est une question littérature, mais enfin ça touche l'histoire aussi. Question rouge de Laetitia Bidot à Quimper. Quel roman d'Alexandre Dumas, paru en 1850, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma, mais très très librement, tire son nom d'une plante bulbeuse? Donc nous cherchons le nom, je rappelle la question, nous cherchons le nom, le titre d'un roman d'Alexandre Dumas qui tire son titre du nom d'une plante bulbeuse. Donc le nom complet du roman.
La Dame aux Camélias ?
Ce n'est pas la Dame aux Camélias. Donc, une plante bulbeuse.
Le dahlia noir?
Non.
Ce ne serait pas Fanfan la tulipe.
Ce n'est pas Fanfan la tulipe, mais...
La tulipe noire?
C'est la tulipe noire. Le titre du roman, paru en 1850, roman d'aventure et historique. Il y a d'ailleurs eu un film tiré de ce roman, mais assez différent du livre. Alors l'histoire du roman se situe en Hollande au XVIIe siècle. C'est bien la tulipe noire d'Alexandre Dumas. Aline et Laurent, félicitations, vous avez répondu à toutes les questions et vous pouvez directement tenter le... dans ce centre culturel Simone Signoret, en Onfreville-Lamivoie. Banco aujourd'hui ou pas de banco? Et on s'arrête là.
Eh ben, on s'est dit qu'on était joueurs, alors on joue.
Banco.
Le jeu des 1 000 euros. Nicolas Toufflet sur France Inter.
Je vois que le sujet de cette question banco, c'est un calcul mental. Alors c'est souvent, d'ailleurs, dans le spécial jeune qu'on a des questions calcul mental. Mais là, pour une fois, c'est dans l'émission adulte avec vous deux, Aline et Laurent, et vous qui nous suivez. Attention, évidemment, le principe du banco, c'est que vous n'avez droit qu'à une réponse. Bernard Rond de Roussillon, dans le Vaucluse, vous demande de calculer ceci à partir de cette énigme, disons. Ce problème. Je veux faire une confiture avec 60% de fruits et 40% de sucre. Si le poids total de mes fruits est de 900 grammes, quelle quantité de sucre dois-je ajouter ? Je rappelle la question, on prend le temps, on pose les choses. Je veux faire une confiture avec 60% de fruits et 40% de sucre. On considère que le poids total des fruits est de 900 grammes. Dans ces conditions, quelle quantité de sucre dois-je ajouter ? Donc 60% de fruits, 40% de sucre. On a 900 grammes de fruits. Quelle quantité de sucre doit-on ajouter dans ces conditions ?
Eh ben, on pense à 360 grammes.
C'est 600. 60% de fruits, ça fait 900 grammes, et donc 40% de sucre, ça fait 600 grammes. Donc je rappelle la question. Je veux faire une confiture avec 60% de fruits, 40% de sucre. Si le poids total de mes fruits est de 900 grammes, quelle quantité de sucre dois-je ajouter ? Je suis désolé, la bonne réponse, c'est 600 grammes.
Oui, oui.
Poids total, 1500 grammes, donc 60% de fruits, c'est 900 grammes, et 40% de sucre, c'est donc 600 grammes. La bonne réponse à cette question, quelle quantité de sucre dois-je ajouter ? C'était 600 grammes. Ouais, Bernard Rond à Roussillon, dans le Vaucluse, gagne pour cette question banco, calcul mental et confiture. 45 euros, Aline Calentier, Laurent Grenier, pour vous, le récepteur Radio France Inter, et le cahier de vacances du jeu des 1000 euros, avec 200 jeux pour se cultiver en s'amusant, et peut-être des questions casse-tête comme cette histoire de confiture et de sucre et de fruits, et un tour de France à travers les villes et villages, coédition Marabout France Inter, et en vente en librairie, je le précise, c'est important. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.
Et je vous rappelle que nous serons demain dans les Vosges avec Nicolas Toufflet pour des enregistrements en public de nos deux émissions, les carnets de campagne et le jeu des 1000 euros. Rendez-vous dans le superbe théâtre du peuple à Bussan, demain mardi à 16h et à 18h.